dear Corina, tell me where'd you stay last night? Came in this morning, sun was shining bright. I met Corina way across the sea. I met Corina way across the sea. She wouldn't write no letters, she didn't care for me.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver, comme tous les vendredis, le petit précis philosophique de Géraldine Mesnil-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Alors jusque-là, vous dispensiez vos conseils aux candidats en lice pour l'élection présidentielle, mais aujourd'hui, c'est plutôt aux électeurs que vous avez envie de vous adresser.
Mais oui Adèle, ça y est, on y est. Le premier tour des élections présidentielles aura lieu dans 2 jours. Il est donc encore temps de prendre conseil, et encore pour les électeurs. Après la question posée la semaine dernière, comment se décider ? Que faut-il espérer de cette élection aujourd'hui ? Faut-il même espérer ? Autrement dit en politique, l'espoir nous fait-il vivre ou nous trompe-t-il ?
J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après...
Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais pas me présenter du tout.
Dans une chronique qui date de 1888, La grève des électeurs, l'écrivain et journaliste Octave Mirbeau se lamentait de ne pas trouver un seul texte faisant, à la manière de Balzac, une physiologie de l'électeur moderne. À quel sentiment baroque, demandait-il, à quelle mystérieuse suggestion peut bien obéir ce bipède pensant, doué d'une volonté, assuré qu'il accomplit un devoir en déposant dans une boîte électorale quelconque un quelconque bulletin, peu importe le nom qu'il ait écrit dessus. Qu'est-ce qu'il doit bien se dire en dedans de soi, qui justifie ou seulement qui explique cet acte extravagant, qu'est-ce qu'il peut bien espérer ? L'espoir, voilà peut-être de quoi faire le portrait de l'électeur. D'autant plus que Mirbeau lui-même comparait les électeurs à des moutons qui vont à l'abattoir, à ceci près que les moutons, eux, ne votent pas pour le boucher qui les tuera, et pour le bourgeois qui les mangera, et à ceci près surtout qu'ils n'espèrent rien. Et c'est là le problème de l'espoir en campagne, il est à la fois la caractéristique de tout électeur et peut-être sa première illusion. Mais l'illusion, n'est-ce pas aussi d'aller voter et de vouloir en même temps ne plus rien espérer ? À l'inverse de Mirbeau, on doit justement à Descartes sur la question de l'espoir plus de précision. Dans son traité, le dernier, Les passions de l'âme, il fait ainsi de l'espérance, je cite, « une disposition de l'âme à se persuader que ce qu'elle désire adviendra ». Espérer, c'est donc d'abord une passion bien normale, pour un électeur à la veille d'un premier tour. Car on attend, persuadé de l'événement à venir, qu'il nous fasse du bien, qu'il améliore notre existence. C'est ainsi, par exemple, l'espoir de voir son candidat être élu et ses idées enfin mises en œuvre, ou c'est au moins l'espoir de ne pas voir arriver à la tête du pays un chef que l'on craint. Mais l'espoir, c'est aussi une passion quelque peu paradoxale, et aussi pour un électeur à la veille d'un premier tour. Car se persuader, est-ce être complètement sûr ? N'y a-t-il pas en effet un doute sur le fait que notre candidat de cœur, ou choisi stratégiquement, nous procure des bienfaits ? N'y a-t-il pas aussi un doute sur les autres électeurs qui espèrent peut-être tout autre chose que nous ? Mais n'y a-t-il pas surtout un doute sur nous-mêmes ? Puisque c'est bien notre âme qui se persuade d'abord elle-même d'espérer. Et si l'illusion, ce n'était ni la portée du vote, ni l'espoir, mais nous-mêmes qui sommes si incertains. Descartes l'affirme, nous pouvons espérer, bien que l'événement ne dépende aucunement de nous. Mais pourquoi l'espoir est-il alors d'abord une affaire avec nous-mêmes, et même en campagne où tout dépend des uns et des autres ? Pourquoi cherche-t-on à se persuader soi-même que ce qu'on désire adviendra, avant même de vouloir persuader les autres, par exemple de voter pour tel candidat ? Ou pourquoi ne parvient-on pas à désirer tout simplement, bien patiemment, sans espoir ni illusion, en allant juste voter dimanche prochain ? C'est l'enjeu de toute passion, elle se joue entre nous et nous-mêmes, et c'est ainsi que Descartes préconise de distinguer ce qui ne dépend que de nous, afin de n'étendre notre désir qu'à cela seul. Mais que faire alors en cette période d'attente, où l'espoir semble d'autant plus se jouer de nos incertitudes qui le rend nécessaire que de notre propre foi qui le fait exister ? Comment l'écarter par sa pensée ou le maîtriser par sa volonté quand lui-même n'a rien de l'illusion, mais nous fait justement penser et vouloir ? C'est bien le paradoxe, que faire de notre espoir quand on l'espère nous-mêmes ?
Eh bien, j'ai besoin d'un conseil, Géraldine. L'électeur que je suis, l'électrice que je suis, a besoin de votre conseil.
Eh bien Adèle, je vais vous en donner un. La question était de savoir si l'espoir nous trompait ou nous faisait vivre. Mais on peut aussi inverser cette question et se demander si nous-mêmes, nous ne jouons pas de l'espoir pour continuer à vivre ou tout simplement à voter. Voilà donc mon conseil pour vous et pour tous les électeurs, c'est de lire ces passions de l'âme de Descartes où l'on découvre qu'espérer, ce n'est pas seulement pâtir et souffrir, mais tout simplement s'exercer avec passion grâce à la passion à cette vertu.